Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
La première émission nous retraçait la mort de Léon Tolstoï. Aujourd'hui, nous revenons en arrière jusqu'à la naissance du petit Lev. Bonjour Claude Ferré.
Bonjour. Voilà, écoutez, nous allons faire naître Léon Tolstoï aujourd'hui. L'autre jour, nous avons assisté à sa mort. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'époque où Léon Tolstoï est né. Voilà, donc Lev Tolstoï veut dire le lion, comme en français d'ailleurs, Léon m'a dit que ça voulait dire le lion. Voilà, Tolstoï donc, comme peut-être je l'ai déjà dit la fois dernière, est né dans une famille très riche, aristocratique. Il est né le 28 août 1828, selon le calendrier julien, le 9 septembre, selon le calendrier grégorien. Bon, il avait trois frères aînés, plus une sœur cadette. Évidemment, Léon Tolstoï est né dans des propriétés immenses. Ses parents, sa mère, son père avaient d'immenses domaines. Le plus célèbre, celui que Tolstoï a hérité, s'appelait Yasnaya Polyana, qui se trouve à 200 km au sud de Moscou, parmi les bois, les forêts, les bouleaux. Il y avait aussi une propriété qui s'appelait Pirogovo. C'est des noms qui me font rêver. Pokrovskoï, Nikolsko-Viasemskoï, Sherbatchevka. Voilà, j'en ai visité certaines, pas toutes, mais c'est vrai que lorsqu'on marche sur ces terres, et après avoir lu les romans de Tolstoï, on a l'impression de retrouver tout ce que Tolstoï décrit.
Ce sont de grandes propriétés, il a beaucoup d'employés.
Oui, alors justement, les propriétés des parents de Tolstoï sont immenses. Les parents de Tolstoï ont plus de 3000 serfs. C'est-à-dire, alors les serfs, comme vous le savez, on les appelle les âmes. Lorsqu'on héritait un domaine, on parlait d'âmes. J'ai 2000 âmes, j'ai 3000 âmes, j'ai 500 âmes. Alors, tous ces gens, on est complètement, quand Tolstoï est né, on est en période féodale, totalement. Les serfs appartiennent aux seigneurs, ils ne peuvent pas se marier comme ils veulent, se déplacer, on n'en parle pas, changer de village, il faut une autorisation. Donc on est vraiment dans la société féodale où les serfs, 90% de la population pratiquement est au service des seigneurs. Donc voilà, il y a un nombre incalculable de serfs, de domestiques autour de la maison, bien évidemment. Voilà, donc il naît sous le tsar Nicolas Ier, évidemment tout puissant, comme on peut l'imaginer. Hein. On l'appelait même le tsar bâton, parce que très très sévère. Alors quand même, s'il y avait une petite évolution si on peut dire, depuis la Grande Catherine, la Grande Catherine qui a régné plus de 25 ans au milieu du 18e siècle en Russie, les tsars quand même, quand Tolstoï est né, ils étaient avant, vous savez qu'ils étaient l'envoyé de Dieu. C'était Dieu sur terre, un tsar autrefois. Là quand même, les serfs n'y croient plus quoi, quand même c'est trop quoi. Mais bon, il y a eu déjà des petites révolutions quand Tolstoï est né, on va en parler. Alors voilà, donc son père est un seigneur militaire comme tous les grands aristocrates de l'époque. Ils sont tous ils vont servir le tsar, ils sont tous très patriotique, évidemment. Il y a une classe bourgeoise à l'époque où Tolstoï est né, mais elle est très, très, très peu nombreuse. On les appelle, comme vous savez, les roturiers, qui sont, ils sont mal vus par les aristocrates. Les roturiers, ce sont des arrivistes. Les dirigeants, c'est les aristocrates, en réalité, quoi. Et puis, bon, ben, il y a les pauvres paysans qui sont là, à servir comme ils peuvent... Les seigneurs avec des conditions de vie absolument épouvantables. Il faut quand même dire aussi que le revenu de l'aristocratie quand Tolstoï est né, début du 19e, même tardivement dans le 20e, leur revenu dépend que de la terre. Il n'y a pas d'industrie encore en Russie à cette époque-là. Donc, les propriétés que je viens de citer des parents de Tolstoï, c'est très important. Ils ont, bien évidemment, des régisseurs dans chaque propriété que le père de Tolstoï à cheval, Tolstoï fera de même après, va visiter. Donc voilà, on est dans... Tolstoï naît dans cette Russie... aristocratique, avec le tsar qui est tout puissant et où les choses fonctionnent comme depuis des millénaires en réalité. Donc pourquoi se poser de questions ? On est riche, on est d'une bonne famille, on continue. Le contexte historique dans lequel Tolstoï est né est très intéressant aussi à comprendre pour percevoir l'évolution de ce géant qu'est Tolstoï. Napoléon est passé il n'y a pas très longtemps à Moscou quand Tolstoï naît, parce que Napoléon, comme vous le savez, est passé en 1812, Tolstoï naît en 1828. Donc la guerre napoléonienne est dans tous les esprits quand Tolstoï naît. On en parle le soir, on en parle et on parle de l'époque encore plus dramatique, les morts évidemment par milliers, la famine pendant Napoléon. Tolstoï, avec Guerre et Paix, il va en reprendre beaucoup de faits. Son père, la petite anecdote est quand même intéressante à souligner, le père de Tolstoï, il était officier du tsar, bien sûr, il s'est battu contre Napoléon, c'est intéressant. Il s'est abattu, il a même été sur les champs de bataille, il était officier bien évidemment, et il a été prisonnier de Napoléon. Prisonnier, mais quand même, il a été libéré. Napoléon respectait à cette époque-là, mutuellement, même s'il se faisait la guerre, il y avait une espèce d'admiration pour les généraux, les officiers de l'autre camp, hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut savoir que le père de Tolstoï n'est pas revenu à Paris. Vous savez que dans cette guerre napoléonienne, les Russes qui ont repoussé Napoléon avec la fameuse Bérézina, d'accord, on pourrait en parler longuement, mais si vous lisez « Guerre et paix », vous aurez des détails bien plus précis que ce que je peux vous dire. Mais ce qui est intéressant à comprendre, c'est que l'armée russe, en 1814... Elle repousse Napoléon. Ils arrivent à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai écouté une émission une fois à France Culture. Il dit, mais vous savez, en 1814, les Cosaques, avec leurs chevaux, leurs sabres, sont venus à Paris. C'est vrai et c'est faux. Les Cosaques faisaient partie de l'élite de l'armée russe. Donc, effectivement, ils étaient incorporés dans l'armée russe. Ce n'est pas les Cosaques qui sont venus à Paris, c'est l'armée russe. Ça, il faut bien le signaler. Alors, ce qui est intéressant aussi à comprendre, on m'a dit ça en Russie, que le mot bistrot que nous employons, il vient du russe. Parce que quand les Russes étaient à Paris, ils étaient un peu... Je ne sais pas combien de temps ils sont restés, peut-être 2 ans. Ils voulaient dominer, et puis ils étaient les dominants. Parce que, et donc, en russe, d'après ce que j'ai compris, pour se faire servir très vite, bistra, ça veut dire vite. Et donc, dans les bistrots, bistra, c'est devenu le mot bistrot. Donc, si vous voulez, Tolstoï est complètement baigné de l'histoire de la guerre napoléonienne. Que son père lui raconte et d'autres personnes, cette guerre qui était quand même très très patriotiques, comme partout, mais les Russes particulièrement très patriotiques. Pour pas que Napoléon prenne Moscou, ils ont brûlé, et ce sont eux qui ont mis d'abord le feu aux poutres, comme on dit, hein, brûlé leur grange, le foin, pour que Napoléon et son armée ne puissent pas se nourrir et bat retraite, quoi. Il a battu retraite. Voilà, et il n'y a pas que son père qui lui a parlé beaucoup de Napoléon, c'est que son vieux précepteur allemand, que Tolstoï aimait beaucoup, il y avait plusieurs précepteurs, il n'y avait pas que des précepteurs allemands. Et donc, lui, il a beaucoup parlé de Napoléon à Tolstoï, petit, aux petits lèvres, hein. Et puis, il était très très fier, ce vieux précepteur allemand, d'avoir battu Napoléon. Voilà, donc... on peut dire que la Révolution française a beaucoup, beaucoup influencé la Russie. Je vous dis tout ça parce que on fera plusieurs émissions et vous verrez comment ça a évolué. Moi, je trouve ça très intéressant. Et ces fameux militaires, les généraux, les officiers militaires qui sont venus à Paris en 1814, donc très peu de temps après la Révolution française, lorsqu'ils sont rentrés en Russie, ils se sont, comme ils parlaient tous français, il faut le savoir, que toute l'aristocratie, à la cour, à Saint-Pétersbourg, à Moscou, ont parlé français. Bien sûr, c'était la langue, Voltaire, Diderot était passé par là, enfin, il l'avait étudié. C'était la langue de cour, enfin, des aristocrates. Donc, parlant français, quand ils sont arrivés, ils sont retournés de leur campagne de France, voyant séduits par les idées de la Révolution française, ils se sont dit, mais non, on ne peut pas continuer comme ça, dans une espèce de féodalité, non. Il faut qu'on demande au Alexandre Ier, qui était à ce moment-là le tsar. Ils ont fait, voilà, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est la fameuse décembre 1826, donc 2 ans avant que Tolstoï naisse, on a appelé cette révolution d'intellectuels, de généraux, d'officiers, les décembristes. Les décembristes, ils ont voulu quoi? Ils ont voulu une constitution comme un peu comme à la française, quoi. Ils ont dit, non, on n'est pas plus bête que les autres, et certainement qu'ils sont aussi intelligents que les Français. Ils ont été élevés à la littérature française et aux lois françaises aussi, hein. Donc, alors là, ben, comme vous le savez, 1826, décembre, la répression, alors, de toute son ampleur, et Pouchkine, dont on va parler, a participé à cette révolution. Plus tard, Dostoïevski, qui est né en 1820, il avait 8 ans, 6 ans, il n'a pas participé, mais il y a eu des courants après. Donc, ça a été très, très violent. Ils ont été, ces officiers, alors ils n'ont pas été tués parce qu'ils étaient des officiers, des aristocrates. Ils ont été déportés en Sibérie, démis de leurs fonctions. Voilà. Donc, les décembristes, c'est quand même très important à comprendre, 1826, de la première révolution d'intellectuels dans l'histoire de la Russie. Contexte littéraire dans lequel Tolstoï est né. Eh bien voilà, je l'ai presque dit, Dostoïevski est né 8 ans avant lui, le père de Dostoïevski était un grand propriétaire terrien aussi, et puis Tolstoï est né dans l'époque où le fameux, le célèbre, le dieu vivant Pouchkine était à l'affiche, quoi. Comme on le sait, Pouchkine, qui est né en 1799, mort, je crois, en 1831, peut-être, en duel, était et le père de la littérature russe. C'est lui qui a institué la littérature du peuple, où on parle du peuple. Donc, ça a été quand même ça a été très important à comprendre cette époque. Et c'était l'époque où on lisait beaucoup à haute voix. Le soir à la veillée, dans cette grande famille aristocratique et bourgeoise, on lisait à la veillée. Le jour tombait déjà lorsque nous arrivâmes à la maison. Maman se mit au piano. Nous, les enfants, nous apportâmes du papier, des crayons, des couleurs, et nous nous installâmes autour de la table ronde pour dessiner. J'avais seulement du bleu foncé. Malgré cela, j'entrepris de représenter la chasse. J'avais campé de façon très expressive un petit garçon bleu foncé monté sur un cheval bleu foncé, des chiens bleu foncé, mais je n'étais pas sûr qu'on pût dessiner un lièvre bleu foncé. Aussi, courus-je vers le bureau de papa pour lui demander conseil. Il était en train de lire. À ma question, y a-t-il des lièvres bleu foncé? Il répondit sans lever la tête. Oui, mon ami, oui. Revenu à ma place, j'esquissai un lièvre bleu, puis je jugeai utile de le transformer en buisson. Le buisson me déplut tout autant, j'en fis un arbre. De l'arbre une meule, de la meule un nuage, et pour finir, barbouillai tellement mon papier de peinture bleue que de dépit je le déchirai et allai faire un somme dans le fauteuil Voltaire. Maman jouait le deuxième concerto de Field, son professeur. Je sommeillais et dans mon imagination surgissaient des souvenirs légers, lumineux, transparents. Elle attaqua la sonate pathétique de Beethoven et ce furent des réminiscences tristes, pesantes et sombres qui me vinrent. Maman jouait souvent ces deux morceaux. Aussi, je me rappelle très bien le sentiment qui les éveillait en moi. Ce sentiment ressemblait à des souvenirs. Mais quels souvenirs ! J'avais l'impression de me rappeler des choses qui n'avaient jamais existé.
On n'a pas parlé de la mère de Léon Tolstoï.
Voilà, donc la maman de Léon Tolstoï, comme on vient de le lire, était une merveilleuse pianiste, une femme qui chantait, qui jouait beaucoup, qui parlait déjà à son époque quatre langues. C'est pas facile, c'est pas difficile à comprendre, le français, l'allemand, l'anglais, évidemment le russe. Hein. Alors donc, il y avait, comme je l'ai certainement déjà dit, une bibliothèque énorme chez des gens comme chez les Tolstoï. Hein. Et c'était une fana de Rousseau. Rousseau l'intéressait beaucoup, et Jean-Jacques Rousseau, bien évidemment, avec ses idées révolutionnaires, hein, alors que normalement, elle qui était une riche princesse, voilà. Et elle aimait tellement Rousseau qu'elle portait à son cou une médaille de Rousseau, que Tolstoï portera après. Alors malheureusement, ce qui est dramatique dans ces cas-là, évidemment, elle meurt suite au cinquième accouchement. Tolstoï est le quatrième enfant, garçon. Il y a trois garçons avant lui. Et quand la cinquième fille, le cinquième enfant, qui est une fille, naît, la maman de Tolstoï meurt, je crois, deux mois après avoir accouché de la fille. Alors, c'est catastrophique, c'est terrifiant. Tolstoï a à peine 18 mois, je crois, 20 mois. C'est la catastrophe. Et donc, ce qui est terrible, c'est que le père, qui est pourtant un père très bon, qui n'est pas du tout pédant, qui est un père, un seigneur aimé de tous, de ses serfs, comme des gens de son milieu, et qui voulait toujours arranger les situations. C'était un bon maître. Et puis il aimait bien sûr la Russie, il aimait sa Russie, c'était un patriote, il avait combattu contre Napoléon, il aimait beaucoup la musique populaire. Et ce qui me fascine, c'est qu'il avait carrément un orchestre, voilà, il avait un orchestre à son service, et il aimait beaucoup les rythmes populaires. Et tous les matins, je ne suis pas allé voir, mais on dit cela, qu'il se faisait réveiller par ses serfs musiciens. Tolstoï et ses trois frères et sa sœur sont orphelins alors qu'il a, lui, il a 9 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces grandes familles ? Dans ces grandes familles, évidemment, tout va continuer comme avant. Il y a une tante qui va prendre le relais de tout cela. Hein. Le père est parti, mais il y a une tante qui va prendre le relais, qui avait déjà pris le relais quand la mère est morte. Hein. Mais cette tante meurt entre-temps encore. C'est épouvantable. Tous ces morts. Et donc, une autre tante va reprendre le relais après la mort du père. Donc, c'est vrai que Tolstoï, quand même, là, et les autres aussi, mais on parle de Tolstoï, il est très éprouvé, et il le dira plus tard. Et très vite, il est frappé par l'absurdité de la vie. pense que là, il y a déjà une réflexion qui naît chez Tolstoï. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère, mon père meurent, ma tante avec laquelle je m'étais attaché meurt, voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne peut plus comprendre, là, pour un petit de 9 ans. Donc, comme je disais, malgré tout, et il est presque furieux que tout continue comme avant. Dans ces grandes familles, bien sûr, tout continue comme avant. Les tantes sont là, les domestiques, les régisseurs, tout est pris en charge. Il le dira, il dira, mais j'étais même choqué que les fauteuils soient à la même place, que les repas se prennent toujours à la même heure, qu'on se couche à la même heure, alors que ma mère et mon père sont décédés. Pour lui, le monde a été révolutionné. Il aurait voulu que tout change. Je pense que peut-être là, on trouve déjà chez Tolstoï les racines de sa révolte, quoi.
Alors, il n'est pas conservateur.
Il n'est pas conservateur. Ça, c'est on peut le dire. Oui. Alors évidemment, c'est une ambiance très religieuse. On est très croyant, on est très pratiquant. On récite les prières le soir. On fait la fête, on va malgré tout pique-niquer, on fait beaucoup de pique-niques à cette époque dans les champs. Et Tolstoï sera toujours dans une ambiance de femme, de tante, de nounou. C'est peut-être pour ça qu'il a beaucoup aimé les femmes après. Hein. Bon, je ne sais pas. Mais voilà, il naît dans... il est élevé dans une ambiance de femme, de nounou. Et ça, ça l'a beaucoup marqué. Et de précepteur. Parce que Tolstoï n'a jamais été à l'école du village, bien évidemment. Il y avait des précepteurs allemands, je crois que je l'ai dit, anglais, français. Et comme tout à l'heure je le disais, ce vieux précepteur allemand, Karl Ivanovitch, qu'il l'appelle dans son petit roman, là, Enfance, qui retrace complètement sa vie. Et très vite, Tolstoï, même à 10 ans, il écoute ce vieux Karl Ivanovitch qui lui parle. Il écoute toutes ses misères. Et Tolstoï voudrait l'aider. Et voilà, justement, là, quand ils ont 9-10 ans, quand le père et la mère sont plus là, les tantes, les responsables d'eux, décident d'aller habiter à Moscou. Jusqu'à 9 ans, il a toujours été dans sa campagne, quoi. Et ils partent à Moscou, et tous les cinq enfants partent à Moscou. Alors, je ne vais pas décrire, il n'y a pas le train à cette époque-ci, hein, c'est des calèches dans la boue, tout ça. Et Tolstoï pleure parce qu'il veut qu'on emmène le vieux précepteur, Karl Ivanovitch. Et Tolstoï parle de sa première découverte, quand il a 9-10 ans, de Moscou. Il est fasciné par le Kremlin. Kremlin, vous savez que ça veut dire forteresse. Et il est fasciné par ces bulbes des églises qui brillent là. Hein. Alors il est ravi, il est fou de joie de découvrir, enfin, comme tout enfant qui part à la ville, il n'a jamais été de sa vie, il a toujours vu que la campagne de Yasnaya Polyana. Mais par contre, évidemment, mal si les chemins sont mauvais et tout, ils ont assez de chevaux et assez de calèches pour revenir des longs étés à la propriété à Yasnaya Polyana. Oui, j'ai oublié de dire que ce mot Yasnaya Polyana veut dire littéralement en russe clairière lumineuse. Voilà, Tolstoï, souvent, il a dit une chose qui est fondamentale pour le comprendre et il dira quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Il dit, non seulement j'aimais la nature, Tolstoï est un passionné de la nature, mais il me semblait être la nature.
Ah, on a oublié ça dans l'environnement de notre 21e siècle.
c'est vrai. Je suis paysan et j'aime beaucoup aussi la nature et je comprends ce qu'il veut dire, cette nourriture au contact. Surtout cet automne, là, avec les arbres qui sont magnifiques. Donc voilà, son enfance, malgré tout, et son adolescence, est quand même heureuse. On manque de rien, c'est évident. Même si le petit Tolstoï ne se trouve pas beau. Si vous l'avez en photo, c'est vrai que Tolstoï est pratiquement laid. Sa mère n'était pas belle, mais ça, certainement très belle intérieurement. On peut dire que la famille est très artiste. Les enfants font de la peinture, du dessin, du piano. Tolstoï apprend le piano comme tous ces enfants-là. Et toute sa vie, il sera un bon pianiste. Alors bien sûr, les promenades à cheval, ils ont beaucoup de chevaux. Hein. Tolstoï sera toute sa vie un très bon cavalier. courses dans les prés avec les amis, les cousins, les cousines, on reçoit beaucoup de monde. Les gens ne viennent pas vous visiter une semaine, ils viennent 8 jours, 15 jours avec tous leurs domestiques, les amis. Hein. Oui, parce que dans ce milieu-là, on ne se déplace pas avec juste sa brouette. Hein. On se déplace avec les cantines, les domestiques et tout ça. Alors, ils aimaient beaucoup aller cueillir des champignons. Et là, on parle beaucoup, Tolstoï, de ses cueillettes de champignons avec ses cousines. On va visiter les voisins. Le soir, à la veillée, on raconte des histoires, on chante, on danse, on lit. Alors, excusez-moi, mais je vais sûrement me répéter, mais moi, je suis fasciné de voir que dans ces chemins, à travers ces chemins boueux, là où il est né, on est à 200 km au sud de Moscou. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de train, bien évidemment, encore. Hein. Mais eux, là, tranquille, ils ont des bibliothèques immenses, quoi. Ils peuvent lire Socrate, Platon, Voltaire, Montaigne, tout ce qu'ils veulent. Ça m'a fasciné, quoi. Ça vient d'Europe, bien évidemment. Donc, il a à portée de main toutes les lectures possibles.
Il y en a une qu'on n'oublie pas, c'est surtout...
Alors, voilà. On lit beaucoup les romans français. Ils parlent tous français. Dès l'âge de 14-15 ans, Tolstoï peut lire des romans français. Et surtout, Pouchkine, le dieu vivant de la littérature russe, qui est né en 1799. Et Pouchkine va influencer Tolstoï, comme tous les autres écrivains, que ce soit Gogol, Lermontov, Dostoïevski ou Tourguenieff, même jusqu'à Tchekhov. Et ces lectures de Pouchkine, eh ben, nous avons beaucoup de chance, grâce à Madame Artière de Millau, qui est russe de naissance, qui va nous lire en russe, de sa très belle langue russe, un magnifique poème de Pouchkine.
Зима. Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Борозды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик, в салазки жучку посадив, себя в коня преобразив. Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.
Nous venons d'entendre ce merveilleux poème. Je vais essayer de vous... j'ai quand même un peu la traduction. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que Pouchkine est le père de cette expression où on parle du peuple. Jamais avant, on n'avait parlé du peuple. Et donc, il attaque violemment tout le pouvoir. Il fait une critique énorme de tout. Et qui parle un langage de moujik. Mais c'est justement ça qu'il veut, lui. Hein, parler, donner la voix au peuple, au sans-voix. Alors, on le traite, oui, il nous trace des images populacières. Mais par contre, en revanche, toute la jeunesse cultivée accueille toutes ces nouveautés avec enthousiasme. Alors voilà ce que dit ce merveilleux poème. Il raconte la vie quotidienne, et ça c'est très nouveau en Russie. Avec Pouchkine, les 90% des moujiks, c'était des vers de terre, excusez-moi, mais on parlait pas d'eux. Donc Pouchkine raconte la vie quotidienne, et c'est dans ce poème la première neige qui tombe. Il y a un paysan qui étreigne le chemin tout blanc, avec son traîneau, donc il passe le premier, le cheval trotte, tant bien que mal, le traîneau file hardiment, et le postillon, dans sa belle pelisse qui conduit les chevaux, il y a un petit garçon qui joue au cheval avec sa luge, et sa mère, depuis la fenêtre, le menace de son doigt. Il y a un personnage dans sa vie à cette époque-là qui est très important, c'est Nicolas Tolstoï, son frère, qui a 5 ans de plus que lui, qui a fait des études, qui a beaucoup lu, qui a appris qu'il existait en Moldavie une communauté, je ne sais pas exactement, on l'appelait la communauté des fourmis. C'était des gens qui militaient énormément pour le bien de l'humanité. Et donc, ce Nicolas Tolstoï, avec son jeune frère Léon, ils avaient institué qu'ils allaient délivrer l'humanité de la violence et de la souffrance. Rien que ça. Alors voilà ce que dit Tolstoï et son frère. Selon la légende, son frère aîné détenait le secret qui rendrait l'humanité heureuse. Oh, dis donc, il aurait même écrit ce secret sur une baguette verte quelconque, qu'il cacha dans les bois d'Yasanya Poliana, en croyant que le jour où on la trouverait, le royaume des cieux viendrait. Alors Tolstoï et son frère, et Tolstoï suivait son frère à cette époque-là. Et donc, plus tard, c'est à cet endroit même que Tolstoï a souhaité être enterré, en souvenir de son frère Nicolas, qu'il aimait vraiment beaucoup, et qui est mort encore lui assez jeune. Donc voilà, donc Tolstoï avait déjà, jeune, ses idées d'humanité, le précepteur qui l'écoutait, qui voulait aider, cette baguette verte qui allait sauver l'humanité, apparemment on ne l'a pas trouvée. Voilà. Et puis ce qui m'a étonné aussi dans l'histoire de Tolstoï, c'est qu'il dit, dans des récits, j'ai vu j'avais environ 12 ans, j'ai vu une espèce de lumière à l'intérieur de moi, et qui m'a guidé énormément toute ma vie. Une lumière, on l'interprète comme on veut. Hein. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire aussi, après tout cela, c'est que Tolstoï est un lecteur hors du commun. C'est évident que moi, j'arrive pas à y croire. On m'a dit, les spécialistes russes de Tolstoï en Russie m'ont dit que l'été, mais il avait 14 ans, 15 ans, 16 ans, il était capable de lire 100 romans dans l'été. Moi, j'arrive pas à y croire. Ceux qui m'écoutent vont dire, mais il raconte des conneries, Claude Ferré, là. Ben non, je me suis renseigné. Non, c'est possible, c'est possible.
Ça en fait 3-4 par jour.
Voilà, sur 3-4 mois, l'été durait longtemps à cette époque-là. Voilà. Et puis, non seulement il lisait, mais il retenait ce qu'il lisait. Donc, ce qui fait que ce petit Léon Tolstoï, enfin ce petit, à 13-14 ans, il avait déjà lu Voltaire. Montaigne, Pascal, les Évangiles.
Oui, ils avaient un niveau d'instruction assez élevé hein, à cette époque-là.
Ils avaient un niveau d'instruction étonnant. Il y a des gens aussi aujourd'hui, attention, il y a des gens aujourd'hui, à 12-15 ans, ils ont lu Guerre et Paix, qui fait 2000 pages. Bon, voilà. Et ce qui est étonnant chez ce jeune Tolstoï, c'est qu'il faisait des analyses déjà, de non seulement il se contentait de lire énormément et de retenir, mais il en faisait des analyses. Et donc, il lui est arrivé à avoir des réflexions qui l'ont conduit parfois à des états proches de la folie. Donc, je vais vous lire un passage dans Adolescence qui est assez significatif pour expliquer les états dans lesquels Tolstoï pouvait se mettre avec toutes ses lectures et ses réflexions sur la vie. J'imaginais qu'à part moi, personne, rien n'existait dans le monde entier. Que les objets n'étaient pas des objets, mais des formes qui n'apparaissaient que lorsque j'y prêtais attention, et qu'aussitôt que je cessais de penser à elles, ces choses disparaissaient. En un mot, j'avais rejoint Schelling dans la conviction que ce n'étaient pas les objets qui existaient, mais mon attitude à leur égard. Il y eut des instants où, sous l'influence de cette idée fixe, j'en arrivais à un tel degré d'extravagance que parfois je me retournais rapidement pour regarder dans la direction opposée, espérant surprendre à l'improviste le vide, le néant, là où je n'étais pas. Voilà, on peut voir que Tolstoï, effectivement, il avait déjà des réflexions qui et des conséquences parfois à ces réflexions qui pouvaient être déstabilisantes. Mais bon, donc ils viennent l'été à Yasnaya Poliana, l'hiver ils sont à Moscou. À l'âge de 15 ans, il y a encore une tante qui est morte, il y en a encore une autre qui s'en va, qui les prend, des cousines, puisque les tantes, à force de mourir, il n'y en a plus trop, quoi. Hein. C'est des cousines, je crois, qui les prennent. Les enfants, il a 15 ans, Tolstoï, ils s'en vont à Kazan. Kazan, c'est une merveilleuse ville qui est à 1000 km. Ils n'ont pas peur de voyager, hein. Il n'y a pas de train, on voyage en calèche. Quand il y a des grandes rivières sur la Volga, mais je ne crois pas qu'il y a de Volga pour aller à Kazan de Moscou, non, c'est pour aller dans le sud, ça. Alors, on prend les bateaux, bien sûr, aussi. Et donc, quand ils partent, ils partent avec toutes leurs leurs cantines, leurs livres et tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, ils arrivent à Kazan. Et là, Tolstoï va y rester 4 années dans cette... Kazan est une des plus célèbres universités où tous les princes, les comtes vont là. Et d'ailleurs, c'est là où... plus tard, ira Lénine étudier. Et oui, ce qui est intéressant à dire, c'est que quand j'ai parlé de transport, de chevaux, de bateaux, le train, moi j'ai été étonné de découvrir ça, le premier train qui faisait 30 km de long, pas plus, autour de Saint-Pétersbourg, a été construit en 1836. Et donc, et je crois que la ligne entre Saint-Pétersbourg et Moscou a été construite en 1860. Voilà, Kazan, ben c'est, il y a encore un très beau Kremlin, c'est la steppe. Voilà, je ne suis pas allé à Kazan, donc je ne peux pas vraiment plus la décrire. Mais tout ce que je sais, c'est que ces 3 ou 4 années à Kazan, Tolstoï est entré à l'université des langues orientales. Comme on verra plus tard, Tolstoï parle une quantité de langues absolument impressionnante. Mais déjà, quand il arrive à Kazan, il parle au moins 4-5 langues, là, comme je l'ai déjà dit. Et donc, il va apprendre... Alors, je ne me suis pas arrivé à savoir, il faudrait que je m'informe davantage, quelle langue Tolstoï étudiait à Kazan. Pour moi, c'est, le turc, c'est évident. Parce que c'était leur, ils étaient en guerre avec eux. Le turc, certainement le persan peut-être, puis toutes ces langues du Caucase. À mon avis, quand, je pense pas quand ils disent oriental que ça aille jusque. C'est pas Tolstoï ne parle pas le chinois ni le japonais. Voilà. Donc, alors déjà là, il est quand même bien engagé dans les études. Il aime pas du tout les règles de l'université. Après ces langues orientales, il passe au droit. Il fait des études de droit. Et ses professeurs, voyant quand même que c'est, quand il veut travailler, c'est un brillant cerveau, il lui demande d'étudier le nakaz. Le nakaz, c'est quoi ? C'est un ensemble de lois qui a été que Catherine II, au XVIIIe siècle, 50 ans plus tôt, a érigé pour gérer la société russe. Par exemple, comment faire pour qu'il y ait plus de naissances ? Ah ben oui, on mourait des gens là. Hein. Il fallait des bras pour travailler, mais comment faire ? Et Tolstoï, ben, lui, il a fait une thèse, une très grande thèse là-dessus. Il a réagi sur toutes les lois de Catherine II. Il a dit, mais il faut déjà quand même, si vous voulez des naissances, il faudrait réduire la pauvreté déjà. Première chose, quoi. Hein, leur donner à manger à ses serfs, leur donner des terres. Enfin bref, voilà. Donc, et puis un jour, parce que dans ces universités, oh, moi j'aime bien ça, il a fait de la prison. Une journée de prison parce qu'il est arrivé sans avoir fait son devoir d'histoire. Voilà, donc il lisait le latin évidemment aussi. Il aimait beaucoup danser. Tolstoï était un fanat de la danse. Alors déjà, 17, 18 ans, il commence à parler de ses défis qu'il rencontre, les fêtes qu'il fait, enfin toute la vie des jeunes aristocrates.
Thank you.
Voilà, on vient d'entendre une belle mazurka de Chopin sur laquelle Tolstoï aimait chanter Chopin ou Glinka aussi. Hein. Ce qu'il faut dire qu'à 19 ans, il avait tout lu Rousseau, qu'il admirait absolument. Rousseau, comme vous le savez, aimait beaucoup la nature, Tolstoï aussi. Voilà, donc là, il restera, comme je l'ai dit, jusqu'à l'âge de 19 ans. À 19 ans, même pas 19 ans, 18 ans et demi, il passe ses examens. Il est totalement recalé. Devant l'examinateur, il ne peut plus rien dire, Tolstoï. Il n'a pas travaillé ou il n'a plus envie. Il sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, quoi. Il ne dit rien. Il a honte. Il retourne chez lui. Alors, toute sa famille, ça, il devait être promu à une carrière gigantesque, ce fameux gaillard, hein, avec un cerveau pareil. Il a honte. Et toute une nuit, il réfléchit à son avenir. Et là, il va prendre une décision capitale qui va engager son avenir entier, que nous allons voir dans la prochaine émission.
Merci Claude Ferré. Extrait du poème d'Eugène Onégine de Pouchkine qui a été lu par Madame Artière de Millau. On a aussi entendu un extrait du roman d'enfance, adolescence, jeunesse de Léon Tolstoï. Et on voudrait adresser un remerciement particulier à Monsieur André Lichke qui est musicologue et qui nous a aidé à trouver les musiques de cette émission. La suite dans le troisième épisode. Et on remercie Claude Ferré pour son immense passion.
Merci.